Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit.
Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et pour ce troisième épisode, on s'intéresse à la collection Belmondo qui arrive sur Netflix. Les films de Bébel font rêver mon invité depuis tout petit. Il en a gardé un amour des belles voitures plutôt que des cascades. François Wyss est avec nous aujourd'hui. Salut François.
Salut Laurence. Bah oui, je suis ravi, c'est le fameux moment tac tac badaboum. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est amusant parce que cette fameuse phrase reprise par tous les imitateurs, c'est une pure création d'imitateur. Jean-Paul Belmondo n'a jamais dit ça dans aucun film. Alors il a un phrasé un peu particulier comme ça, et bougez pas, j'arrive, mais il n'a jamais dit toc toc badaboum dans aucun film.
Une première belle anecdote, et je suis sûre qu'avec toi, il y en aura d'autres au fil de ce podcast. Commençons donc par parler de la collection Belmondo qui arrive avec une quinzaine de films, des incontournables, des classiques, mais pas seulement. François, tu nous as préparé une sélection de tes 5 coups de cœur. Par quel film nous conseilles-tu de commencer ?
Ouais, bah j'aurais pu citer Pierrot le Fou, Cartouche, L'As des As. Enfin, en fait, moi, je vais revoir tout Belmondo parce qu'on s'en lasse jamais. Mais effectivement, le premier film que je vous conseille de revoir, si vous ne voulez en revoir qu'un, c'est Le Magnifique. Alors, pourquoi Le Magnifique ? C'est pas forcément le meilleur film de Belmondo, mais c'est celui qui le résume le mieux.
Bonjour.
J'avais peur que nous rations.
Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana.
En gros, Belmondo, il joue un écrivain un petit peu loser au fond de son appartement pourri qui s'appelle François Merlin et il imagine les aventures d'un aventurier qui s'appelle Bob Sinclair. Et alors lui, c'est une sorte de James Bond, il a des costards blancs, des cabriolets, il emballe la sublime Jacqueline Bisset. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une aventure au premier degré qui est un petit peu champagne pétillante comme ça. C'est un film signé Philippe de Broca avec des cascades, de l'action, ça tire dans tous les coins, il y a des plages de rêve, des couchers de soleil avec le couple qui s'enlace. Et puis il y a aussi Belmondo qui se moque de lui-même, et ça c'est très Belmondo, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'autodérision quelque part. C'est un moment, et ben il sac son héros, il en fait à son tour un loser qui arrive plus à faire ses cascades, qui est complètement pathétique. Et c'est ça qui est formidable avec Belmondo, c'est qu'il y a toujours l'action au premier degré ou quelque chose d'un petit peu fort au premier degré, et au deuxième degré il y a toujours un petit pas de côté. Et on rigole et on se moque surtout de soi-même.
Toujours un pas de côté, et il a aussi cherché à montrer différentes facettes de lui-même au fil de sa carrière et dans différents films, non ?
Oui, alors je vous recommande aussi Le Professionnel. Alors là, autre salle, autre ambiance, hein, parce que là, c'est un film. Un polar, si on veut dire, mais pas un polar typique pour Belmondo, là, non plus, parce que Belmondo, il a souvent joué les justiciers. Là, il n'est pas le chasseur, il est le gibier.
Moi non plus, je ne voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé.
Là, vous êtes vache, commandant. C'était le boulot, non ? J'aime pas donner des baffes.
T'as raison. Le boulot, c'est le boulot.
Il joue un mercenaire qui revient, qui était emprisonné en Afrique et qui revient un petit peu pour se venger de tout le système. C'est un film beaucoup plus politique, beaucoup plus noir. C'est d'ailleurs atypique jusqu'au bout, puisque le réalisateur, c'est Georges Lautner, qu'on connaît plus pour des comédies. Et les dialogues et le scénar sont signés Michel Audiard. Et alors, il y a une fameuse scène de la fin. Alors, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu, mais une scène où il va vers un hélicoptère. Il y a Bernard-Pierre Donadieu qui le tient en joue, hein, qui fait un tireur d'élite, qui attend un go du ministre de l'Intérieur pour le descendre ou pas. Et on ne sait pas jusqu'au dernier moment si Belmondo va mourir ou pas. Évidemment, c'est un sacré enjeu pour un super-héros comme Belmondo. Et puis, c'est aussi un film qui vaut pour sa bande originale, qui est signée Ennio Morricone. Il y a un titre qui s'appelle Kimai. Alors, si je dis Kimai, ça ne vous dit rien du tout. Hein. C-H-I-M-A-I. Mais allez chercher sur Google. Vous verrez, tout le monde connaît cette R. Et il porte vraiment le film. C'est vraiment fort aussi pour cette BO.
Effectivement, cette musique magnifique d'Ennio Morricone, rien que pour ça, ça revaut le coup d'œil et le coup d'oreille. Est-ce qu'on peut aussi trouver des films un peu moins connus de Belmondo sur Netflix ?
Alors, moins connu, oui, il y a un film de Claude Lelouch qui s'appelle Un homme qui me plaît. C'est pas le plus connu Lelouch, alors c'est pas le meilleur. Et puis alors ceux qui n'aiment pas Lelouch vont pas aimer parce que c'est du pur Lelouch. Il y a un homme, une femme aux États-Unis, ils sont français. Elle est actrice, c'est Annie Girardot. Il est compositeur de musique de film, c'est Jean-Paul Belmondo. Ils se rencontrent sur un tournage à Hollywood. Ils se plaisent, comme dit le titre, et puis ils vont faire une sorte de road trip à travers les États-Unis.
Ah, tu vois, t'es pire qu'une bourgeoise. Parce que même nu, tu gardes tes mains sur les seins. un prétexte pour prendre du soleil.
Avoue que ce n'est pas banal.
Ce film, il vaut le coup d'œil parce que déjà, il y a des beaux paysages américains. Par les temps qui courent, on est tous confinés, ça fait du bien. Il y a des grands paysages, il y a des scènes un peu lelouchiennes, un peu barrées. À un moment, il y a une haie d'honneur d'Indiens sur des chevaux autour d'une voiture dans laquelle il y a nos deux héros. Voilà, il y a des trucs un petit peu comme ça. Il y a une scène de western qui est complètement étonnante. Il y a aussi un moment où on voit comment on fait une musique de film, puisqu'il est compositeur de musique de film. Et en fait, le vrai compositeur, c'est Francis Lai, et c'est très
avec
étonnant.
Avec là encore une BO qui est très agréable à écouter.
Voilà, signé Francis Lai. Et puis alors surtout, bah évidemment, c'est la rencontre de Jean-Paul Belmondo et de la magnifique, sublime Annie Girardot.
Ce film, j'ai l'impression que tu l'aimes autant pour Belmondo que pour Annie Girardot, non ?
Oui, d'ailleurs, on peut presque dire que Belmondo est le faire-valoir d'Annie Girardot dans ce film. Elle est formidable, forcément. Annie Girardot, c'est une présence, comme ça, une gueule des expressions. C'est une magnifique comédienne. Elle avait d'ailleurs eu une love story avec Claude Lelouch dans La vraie vie. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui est mis en scène dans le film. Comme toujours chez Lelouch, il y a des passerelles. Et elle est un petit peu le pendant féminin de Belmondo et Delon dans les années 70. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Parce que c'est vraiment le choc de... L'expression est souvent galvaudée, mais des deux monstres sacrés français des années 70.
Deux salles, deux ambiances, on passe du road trip aux États-Unis à un Belmondo en soutane pour le prochain film dont tu voulais nous parler.
Ouais, c'est Léon Morin-Prêtre, alors adapté d'un livre pris Goncourt. Léon Morin-Prêtre, c'est un film de Jean-Pierre Melville du début des années 60. À l'époque, Belmondo, il n'a pas encore fait de film d'action, il n'a pas tourné L'Homme de Rio et tous ses films policiers. Il est plutôt dans du film d'auteur, hein. Il a fait Pierrot le Fou avec Godard. Il n'a pas encore fait Un singe en hiver non plus. Et ce film, en fait, est une adaptation d'un livre qui raconte une histoire très ambiguë entre un prêtre en soutane, joué par Belmondo, et une veuve qui est en phase de conversion et qui n'est pas insensible au charme de l'ecclésiastique, qui est joué par Emmanuel Riva.
Bien sûr, tous les hommes de votre âge sont partis.
Vous êtes bien un homme de mon âge?
Moi, c'est pas pareil.
Vous attendez pas de l'action ou du toc-toc badaboum, pour le coup. Il y a une certaine lenteur, c'est en noir et blanc, c'est Melville, tout ça est un peu pesant, mais c'est vraiment un film d'atmosphère, et c'est vraiment aussi un film qui prouve dans un genre différent que Belmondo peut tout jouer. À l'époque, il était tout jeune, il avait même un peu hésité à porter la soutane. Et alors, l'anecdote dit, ce qui était sur le tournage, qu'une fois qu'il l'a eu, il ne voulait plus la quitter, même entre les prises. Il gardait cette soutane, il était vraiment habité par ce rôle, et on le sent à l'écran, c'est un vrai comédien. Il a été formé au conservatoire, il a un vrai jeu de comédien qui passe par les regards, par les attitudes, et rien que pour ça, pour voir un Belmondo différent, ça vaut vraiment le coup, ce film.
Cette soutane, il a quand même fini par la quitter en fin de compte, pour passer justement au film d'action qu'on connaît, comme le prochain dont tu voulais nous parler, je crois.
Ouais, ça s'appelle Peur sur la ville. Alors c'est un film des années 70 signé Henri Verneuil, et on peut dire que c'est un hommage en fait à Steve McQueen et même à Bullitt. D'ailleurs, l'affiche du film, c'est très surprenant si vous mettez les deux côte à côte, puisque Belmondo a à peu près la même tenue, et en tout cas la même attitude que Steve McQueen sur l'affiche de Bullitt. Et alors, c'est un peu la version française. Il y a des poursuites dans Paris, puisque Belmondo joue un commissaire qui est aux trousses d'un affreux méchant. Alors, si vous faites des cauchemars ou si vous êtes impressionnable, attention, parce que le méchant qui s'appelle Minos, en fait, il a un œil de verre. Alors, c'est un pervers sexuel qui tue des femmes. Moi, quand j'étais gamin, il me terrorisait. Même maintenant, je suis plus un gamin, mais il me terrorise un peu quand même. Et alors, ce film, vraiment, alors oui, c'est un film d'action, comme tu disais, Laurence, puisqu'il y a des poursuites. Il y en a une sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Il y en a une autre qui est très, très célèbre sur le toit du métro parisien dans son passage aérien près de la Tour Eiffel.
Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Dans le style petite tronche et gros bras, rien dans la tête ou dans les muscles?
Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles? Quelques grammes de gélatine durcie placée où il faut? Ça sert aussi quelquefois à faire des flics vivants.
Belmondo a réellement tourné ses cascades. On dit qu'il tourne toujours ses cascades. Là, c'est le cas. C'était un peu, c'était des cascades très impressionnantes puisqu'il l'a tourné à plusieurs vitesses, dont la dernière à 60 km/h sur le toit du métro parisien. C'était pas dénué de risques. Et d'ailleurs, je me permets une petite anecdote amusante. C'est quand il a tourné cette scène, un agent de la RATP lui aurait dit, oh, bah, dis donc, monsieur Belmondo, moi, pour 20 000 francs, je ferai jamais ce que vous faites. Et Belmondo aurait répondu, eh ben, moi, pour 20 000 francs, je le ferai pas non plus. Voilà. Donc, je vous dis 20 000 francs, ça vous donne un peu l'époque, c'est un peu daté, hein, c'est du polar de papa, ça a plus de 40 ans maintenant, mais voilà, c'est pour voir ce qu'on savait faire dans les années 70, pour faire un peu sur les modèles américains, et là aussi, à nouveau, une BO d'Ennio Morricone, qui est très prenante, et qui participe beaucoup aussi à l'ambiance très angoissante de ce film policier et d'action des années 70.
«
L'action et les nombreuses cascades dont tu viens de nous parler, toutes les cascades sur le toit du métro, ça a pu faire rêver de nombreuses générations de téléspectateurs comme toi. Pourquoi Belmondo en particulier a passionné le gamin que tu étais, François, et le téléspectateur que tu es encore aujourd'hui ?
Bah, quand j'étais gamin, évidemment, au premier degré, parce qu'avec mon frère, c'était un peu le héros qu'on voulait être. Il sautait, il roulait à fond en voiture, il sautait des escaliers, il montait sur les toits, et après, il avait des sublimes femmes dans ses bras, donc forcément, ça fait rêver un petit garçon. Et après, en vieillissant, je me suis rendu compte que Belmondo, c'est vraiment un acteur complet qui peut tout jouer. Parce qu'effectivement, on l'a dit, il passe de Godard à Lautner, il passe d'un film politique chez Philippe Labraud à se retrouver en caleçon sous un hélicoptère dans le Guignolo. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une énorme star, parce qu'aujourd'hui, bon, ça peut faire rire les jeunes générations, mais à l'époque, c'était vraiment le roi du box-office avec Delon et les Charlots en film français. Mais il ne s'est jamais pris au sérieux, ce qui n'est pas le cas de tous les autres gens que je viens de citer. Lui, il y a toujours de l'humour, il y a toujours de la déconne, il y a toujours le côté copain, bon vivant. Il n'est pas dupe de ce qu'il incarne. Voilà, il sait qu'il est une énorme star, mais il n'en a jamais joué, il ne s'est jamais pris pour une star. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, j'ai eu la chance de croiser Belmondo en vrai trois fois, donc je peux dire que je l'ai rencontré, ce serait prétentieux, mais je l'ai croisé trois fois, et la dernière, bon, bah, c'est maintenant un vieux monsieur de 87 ans, il a du mal à bouger, il a du mal à parler, mais il est toujours très gentil avec tous les gens qui l'arrêtent dans les restaurants, dans la rue, et quand on va lui dire un petit mot un peu convenu, bah, merci pour vos films, j'aime beaucoup ce que vous êtes à l'écran, à ce moment-là, sa prunelle brille, son grand sourire, la dent blanche s'élargit et on a en face de soi le bébel qu'on a sur grand écran. Et c'est ça qui est magique, c'est que Belmondo est vraiment, et j'en ai parlé avec des animateurs, avec d'autres acteurs qui le connaissent, il est vraiment dans la vie comme il est à l'écran. C'est-à-dire il aime faire des conneries, des canulars, il est bon vivant, il aime les copains, il aimait le sport quand il pouvait en faire, il aime toujours regarder le sport à la télé. Et c'est quelqu'un en même temps qui peut passer d'une pièce au théâtre, de jouer Kim ou de jouer Cyrano, et en même temps d'aller faire le con sous un hélicoptère. C'est un grand gamin, ce qui l'amuse, il joue au sens propre du mot, c'est-à-dire jouer la comédie, bah, c'est faire passer des émotions, mais c'est parfois s'amuser, être avec des copains, vivre des bons moments, et donner des bons moments aux gens. Et pour boucler la boucle, pourquoi je pense que ce cycle Belmondo, il arrive au bon moment avec le reconfinement, c'est voilà, c'est quelqu'un qui peut, on peut choisir dans cette sélection des films un peu forts, un peu exigeant comme Le Romorin Prêtre ou Pierrot le Fou, mais on peut aussi regarder des franches déconnades ou des films d'action qui vont nous faire vibrer. Et Belmondo, il amène toute cette palette à la fois, et cette sélection de Netflix, elle est bien choisie parce qu'il y a un petit peu tout ce panorama de ce qu'on peut voir de cet acteur qui peut tout jouer et qui est au final éminemment sympathique, même quand il joue un gros dur ou quand il joue un héros prêtre intériorisé. C'est toujours quelqu'un, on a envie d'être son ami et on a envie de le connaître.
Et voilà. Un œil qui pétille autant que le tien quand tu parles de lui.
Voilà.
En tout cas, c'est effectivement une époque révolue dans laquelle on peut se replonger avec délice l'histoire de quelques heures sur Netflix. Donc avec, pour récapituler l'ordre des films que tu viens de nous donner, Le Magnifique, Le Professionnel, Un Homme qui me plaît, Léon Morin-Prêtre et puis Peur sur la ville avec beaucoup d'action au programme. C'est déjà fini. Merci beaucoup François de nous avoir donné envie de voir ou revoir tous ces films de Jean-Paul Belmondo qui sont désormais disponibles sur Netflix. On revient la semaine prochaine avec cette fois une toute autre ambiance. Préparez vos plus beaux diadèmes, on vous parlera de la saison 4 de The Crown, centrée sur le couple Charles et Diana, mais aussi sur la première ministre Margaret Thatcher. Salut ! Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application AudioNow ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts, Castbox et Overcast.